La barge russe. Quotidiennement. Avec Johnny Chief Beck. Sur Jet FM. Barge russe 397, concept du relief. Alors, en lecture de Et l'âme devint chère de Carl Zimmer, m'est venu soudainement à la page 58 un truc. Je me suis dit, ah là, ça il faut l'écrire, et j'ai appelé ça le concept du relief. Donc ça m'est venu aussi en tête parce qu'il parle d'Aristote, et déjà quand il disait il parlait d'Aristote, m'était venu en tête je suis donc je pense donc je suis anti-aristotélicien. Et d'ailleurs quelques pages plus tard, je m'aperçois qu'il parle de René Descartes, donc parce que cogito ergo sum, je pense donc je suis, est de René Descartes, est la célèbre phrase du discours de la méthode. Bon bref, je reviens à mon concept du relief. Or, la dimension des surfaces, là où les profondeurs de situation nous mènent. Une vision floue, troublée par des temps éphémères. Les yeux dans le néant de la réalité se versent dans les complexités des amalgames de possibilités, propices aux rencontres et ou aux connaissances. Tu nous parles d'un territoire de ton intérieur, c'est ça ? L'intégration du côté invisible est un accès aux questions transcendantales. Et à ça s'accompagnent des secousses au cœur. Dans un état de rêve omniscient, à mi-conscient, on ne décèle pas les futilités, mais on prévoit les dangers. Exemple, à vélo, en ville, on fait attention, on a le regard, donc qui n'est plus aussi dans la précision, qui n'est plus aussi ponctuel, qui s'égare, mais qui est au contraire omniscient, comme je disais, qui est partout, qui voit. On sent les voitures qui peuvent arriver, la circulation, les autres vélos, les passants, en pleine ville, hein, je vous parle, hein, c'est pas. Pas dans un champ. Hein. Et donc, je continue. Donc, une semi-rupture avec la réalité, ou son vide, crée le vide de la réalité avec un grand R, crée le relief du côté invisible, l'omniscience. On sent les choses, et c'est quelque chose de dingue. Hein. Semi-plongé dans l'inconscient, car on est à moitié conscient, comme je vous disais. Moitié conscient, moitié rêve. Semi-plongé dans l'inconscient et son omniscience. Ainsi, il en va lors des marches en regardant ses pieds, comme déjà expliqué dans les barges russes enregistrées depuis Copenhague. Je vous disais ça, on regarde les pieds et je passais tout un moment, j'adorais ça, quoi, c'était génial. Mais c'était un peu la même chose. On voyait pas ce qu'il y avait devant nous, mais on sentait des choses excellentes, quoi. Ah ouais, des trucs, comme je dis, voilà. Des secousses au cœur, quoi. Une puissance infinie, quoi. Puis soudain, le mouvement s'arrête. Parce que quand on marche, on garde ses pieds, on avance, on sent le mouvement. En vélo, pareil, c'est encore plus fort en vélo parce qu'on va plus vite. Et enfin, ouais, on va plus vite. Mais soudain, le mouvement s'arrête. Donc là, on sent encore un petit peu, puis ça s'évapore. Et là, à ce moment-là, les contours de la réalité avec un grand R et ses formes de communication reviennent. le langage de la réalité extérieure, ça revient. Donc c'est chiant en fait de parler avec. En fait, j'ai fait un truc, c'était hier ou ce matin, une comparaison. Ouais. En fait, parler avec des gens quand on sort d'un état comme celui-ci, c'est comme fumer un joint, quoi. Ça te fait redescendre sur terre, quoi. Donc il reste la lecture quand même quand on est sans mouvement, jusqu'à ce que les lignes se dédoublent, que le relief des images qu'inspirent les mots nous conduisent à l'intérieur de l'histoire, ou bien de la sienne, de l'histoire quoi, de son histoire, de son intérieur, ou bien à l'intérieur de l'histoire qu'on est en train de lire. Et la compréhension de la situation tombe alors sous le sens, sa logique, sans le passage de quelconque train de questions, sans réponse, de pensée au conditionnel. La vie n'est que rêve. Le mouvement recommence. Donc tout ça, ça peut recommencer si on le souhaite, si on souhaite entrer dans cet état. Et là, quand on est dans cet état, on sent la tranquillité. On vient d'écouter Allegory Part 3 par Frith. F-R-I-T-H. Et à présent, ce que je vous ai dit juste avant, ça m'a rappelé un texte que j'avais pu écrire, qui n'a encore pas trouvé d'éditeur. Je trouve qu'il. Bon. Et je vais vous lire un extrait. Je sais plus le truc exact que je voulais, j'ai pas réussi à le retrouver. Mais ça reprenait un peu ce que je viens de vous dire. Mais c'est pas mal. Donc, la milice des rêves a manqué une descente dans un ferry. Un individu portait en lui la réincarnation du nouveau visage humain, et la milice devait le clouer au sol, afin de maintenir l'illusion du monde. Celle qui n'exploite pas, celle qui nous fait croire être libre. Ce nouveau visage a disparu et pourrait, d'un jour à l'autre, annoncer que tout le monde dépend du langage. Les vagues des significations agissent sur l'équilibre des signes pour la paix intérieure. Luc est l'individu disparu du ferry. Il est le signifiant et le signifié porteur du nouveau message qui lui a été enseigné dans une langue qui nous est encore inconnue. La milice savait Luc dans un ferry, suite à des renseignements d'infiltrés. Des miliciens en civil étaient présents sur le navire. L'un d'eux a pris une photo. Elle est remontée dans les services les plus secrets, et le visage de Luc leur rappelait à chacun un souvenir ou bien un membre de leur entourage. Luc est disposé à être tout le monde et personne, en tant que signifiant et signifié, porteur du nouveau langage. Il est conscient de l'influence des machines venues à bout de l'humanité à coups de répétition. Ces dernières sont lancées par le contrôle qui veut par le fait tout contrôler, mais il finira par s'auto-détruire. Les machines que le contrôle a mis en place vont le détruire et s'emparer de son rôle. Luc s'est retiré dans le cerveau de sa chimère. À vrai dire, il s'y rend à chacune de ses lectures. Elle avance dans un royaume qui se monte avec le rêve, l'imagination. Là-bas s'entrecoupent réalité et irréalité. Luc est derrière les yeux de sa chimère, assis derrière un bureau, et a accès à tous les livres et auteurs que sa chimère a dévorés. Ils sont rangés dans un long et haut secrétaire posé face à lui. Il n'a jamais essayé de changer le cours des choses, ni plus tenter d'enrayer le système qui ne dépend pas de lui, mais de l'incontrôlable contrôle. La chimère de Luc est un monstre de la littérature. Encore embryon, elle a commencé par mordiller les auteurs en lisant, sans ne comprendre et en pensant à autre chose. Elle vaquait à des préoccupations tout autres que celles des lettres. Elle s'évertuait à voguer dans le vide à la recherche de son chemin. Lorsqu'elle était dans sa période de mutation, afin de toucher sa forme humaine, un astéroïde la percuta. Un pavé inconscient bourré de vérités cachées détruisit le monstre alors en pleine évolution. Le phénomène qui allait suivre pour venir à bout de sa déchéance était ancré dans les roches du tunnel de l'astéroïde que sa collision avec provoqua. Le monstre était dans le noir d'un tunnel où seules luisaient quelques lumières incrustées dans la pierre, semblables à des bracelets de danseuses autour de stalactites ou de poils d'or éparpillés sur un lavabo. Le monstre avança au point d'admirer des couleurs suintant sa progression, aussi détaillée qu'un camailleux dégraissant de la profondeur vers la lumière. Mais il préféra s'arrêter dès ses premiers pas, par peur de ne plus entendre. Des voix résonnaient à l'intérieur de l'astéroïde. Le monstre y prêta l'oreille et rencontra les lectures inconscientes de son passé. Il avait l'impression d'entendre chuchoter leur vie à travers la lecture de leurs œuvres. Entre les lignes, juxtaposées aux mots, le monstre grossissait, et il décida de rester dans le noir pour écouter les voix. Au moins, en restant ici, il ne se sentait pas seul. Il ne ressentait pas le besoin de chercher son chemin. Trop occupé à écouter ceux des autres. Luc arrivait aux commandes de son cerveau par ses lectures. Il déplaçait le monstre en se bouchant les oreilles et en lisant des amalgames de mots piochés dans différentes langues et langages. Luc lisait à voix basse et sa sourdité artificielle se réverbérait sur les positions du monstre par les échos de ses lectures. Luc et le monstre créèrent un langage. La pulsion des lectures de Luc sont un mouvement absolument aléatoire en direction d'un mime perdu, d'un déjà-vu. Ils ont fondé leur rapport à l'autre vis-à-vis de leurs besoins. Le monstre est le reflet des mémoires de Luc. Il est son double mémoriel. L'identité de ses lectures est représentée par le monstre. On prend tout encore de ceux avec qui l'on vit, leurs gestes, leurs accents, etc. Comme la paupière se baisse à la menace du coup dont on est prévenu, ou par la même raison que le corps du spectateur imite machinalement, et malgré lui, tous les mouvements d'un bon pantomime. Ce que je viens de dire prouve que la meilleure compagnie de l'homme d'esprit est la sienne. Je viens de citer Julien Auffroy de la Mettrie, extrait de L'Homme-Machine. Leur relation est une réponse à Luc et au monstre, une réponse à l'individualisation provoquée par le contrôle qui veut tout contrôler. Luc veut rester libre et se retranche dans l'univers imagé des lectures et de ses personnages fictifs et réels. Donc j'aurais mis plusieurs années afin de retomber là sur ce texte et sur l'explication, faire un pont entre l'explication que j'ai donnée en première partie de La Barge Russe et ce que je viens de lire juste avant. Pourtant, ce que je viens de vous lire, je l'ai écrit des années plus tôt. Je l'explique enfin. Et je fais le pont entre les deux.
La Barge Russe. Tous les jours, à 14h, avec Helmut Schwartz et Johnny Tufbeck.